France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Que font aujourd'hui les chercheurs et les chercheuses aux archives ? Ils ouvrent toujours, et parfois pour la première fois, des cartons, certes, mais surtout, ils mitraillent, ils photographient. Ils prennent le plus de photos possible dans le temps imparti jusqu'à remplir la mémoire de leur téléphone portable. Et une fois de retour chez eux, devant un écran plus grand, ils les examinent en prenant leur temps. Voilà, par exemple, comment la mutation numérique a transformé les activités les plus ordinaires des historiennes et des historiens, faisant apparaître des gestes nouveaux. Et ce sont ces gestes qui intéressent Caroline Muller et Frédéric Claver. Caroline Muller est l'invitée cette semaine de La Suite dans les idées pour parler de ce livre écrit avec Frédéric Claver, « Écrire l'histoire, gestes et expériences à l'ère numérique ». On poursuivra sur la question des archives et du lien entre littérature et archives en deuxième partie d'émission, pour laquelle nous rejoindra un écrivain, Adrien Genoudet, qui est aussi le directeur d'une collection très originale, la collection Fléchette, qui compte, je crois, si j'ai bien compté, une douzaine de volumes aujourd'hui, à chaque fois adossés à une photographie prise dans un fonds d'archives. Il nous expliquera comment ça marche. Bonjour Caroline Muller.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et comme je le disais, vous écrivez, vous publiez un livre avec Frédéric Claver, avec lequel vous aviez déjà collaboré depuis quelques années maintenant. Un livre consacré à la manière dont la mutation numérique vient transformer votre métier, le métier de chercheuse en histoire en l'occurrence, de multiples manières. En fait, tout part d'un tweet. C'est un tweet, ça s'appelait comme ça à l'époque, oui. Que vous faites pour vous poser la question de ces effets, au fond. Et ce tweet déclenche une conversation collective entre historiens et historiennes.
C'est ça. Alors, c'est une histoire un peu amusante à l'époque où Twitter était un lieu de conversation académique assez fréquent. Et j'étais à l'époque.
C'est-à-dire il y a longtemps.
Oui, un petit moment déjà, il y a une dizaine d'années en fait. Et à cette époque-là, moi, j'étais en train de terminer ma thèse et j'avais mitraillé des fonds d'archives pendant 2 ans. Et j'étais en train de reprendre un livre d'Arlette Farge qui s'appelle Le goût de l'archive, qui avait été publié en 1980.
Un très beau livre. Devenu un classique.
Très beau livre. Et je me demandais donc sur le réseau social, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire le goût de l'archive à l'ère numérique tant nos pratiques comme historiens et historiennes ont changé. Et donc ça a suscité un intérêt de la part non seulement de collègues historiens, mais aussi de bibliothécaires, d'archivistes. Et ça a été le point de départ d'une enquête menée donc avec mon collègue Frédéric Claver. On s'est donné un peu pour objectif d'inventorier, d'observer les pratiques de l'histoire à l'ère numérique.
Et donc il y a eu ce livre collectif, cette espèce de conversation ininterrompue, au fond, qui se mettait à jour en permanence, parce que il s'agit de technologies qui elles-mêmes évoluent très très vite, et il y a des nouveaux outils, peut-être on aura l'occasion de dire un mot de l'IA, par exemple, la révolution est encore très très présente, assez peu présente dans le livre, j'imagine qu'il y aura un troisième livre, peut-être, qui creusera cette dimension-là, mais en tous les cas, ces outils numériques, ils sont variés, ils ont des effets très différents les uns des autres, sur des moments différents de l'activité de recherche, c'est tout ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes posé cette question ? C'est au fond une réflexion un peu générale par rapport à ce livre d'Arlette Farge ou c'est vraiment des situations très concrètes dans lesquelles vous vous trouviez comme chercheuse ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces années-là, moi, je commençais aussi à enseigner les questions numériques aux étudiants en histoire. Et il y a cette chose intéressante quand on enseigne, c'est qu'on est un peu obligé de rationaliser ou de théoriser nos propres pratiques, puisqu'on transmet bien ce qu'on s'énonce à soi un minimum clairement. Et donc, je trouvais qu'il y avait un peu un décalage entre les grands classiques de l'historiographie, tels qu'on raconte l'histoire en train de se faire. Donc, il y a le livre d'Arlette Farge, mais il y a
celui de Paul Veyne, par exemple, comment voilà. On écrit l'histoire.
Il y en a toutes sortes. Et je trouvais qu'il y avait un décalage entre ces manières de raconter futur de l'histoire. Et puis ce que je voyais autour de moi et ma propre pratique, et je me retrouvais pas beaucoup, et je voyais pas non plus beaucoup les pratiques de mes étudiants dans ces grands portraits de l'historiographie. Et c'est là d'où est venue cette idée d'inventorier, mais d'aller au plus près des pratiques concrètes. C'est-à-dire que c'était ça l'entrée et l'intérêt initial.
Alors le livre s'ouvre, comme j'ai décidé d'ouvrir l'émission, par cette situation un peu classique, de mythologisée même, des archives de l'historien ou de l'historienne face à un carton, qui plus est un carton qui n'aurait jamais été ouvert avant. Enfin bon, c'est pas toujours la situation dans laquelle se trouvent les historiens et les historiennes, elle est même peut-être assez rare en fait, mais en tous les cas elle reste fondatrice à bien des égards. Et cette scène qui consiste à se représenter des historiens et d'historiennes en train de photographier ce qu'ils ont, plutôt que, comme ils le faisaient autrefois, prendre le temps sur place d'ingérer, de lire. Alors évidemment, ils ne photographient pas tout et n'importe quoi, parce qu'il faut qu'ils opèrent un premier tri. Mais par exemple, la manière dont se fait ce premier tri, c'est quelque chose d'assez nouveau pour un historien ou une historienne.
Oui, alors il y a une première chose à dire tout de même, sinon je vais contrarier une autre profession très proche de nous qui sont les archivistes. Quand un historien ouvre pour la première fois un carton, en fait le carton, s'il est là, c'est que le fond
a été rangé
par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça c'est quand même important de le préciser. Oui, ce geste de la découverte du carton ou de l'alias, effectivement il est complètement transformé aujourd'hui. Quoique ça dépende des cas, puisque je crois que dans le livre, j'ai essayé d'être attentive à la variété aussi des pratiques et de montrer qu'il y a beaucoup de pratiques différentes.
Mais il y a des gens qui gardent leurs habitudes aussi, j'imagine.
Oui, ou qui défendent l'importance d'un travail relativement classique, en salle de lecture, sur des longues périodes in situ. Mais on voit aussi émerger effectivement deux autres cas importants. D'abord, effectivement, ce que certains archivistes ont appelé du taylorisme de la photo d'archive, c'est-à-dire des chercheurs qui viennent prendre 12 000, 15 000, 20 000 photos en 3 jours et qui peuvent ensuite travailler...
Dans une démarche la plus exhaustive possible,
c'est ça.
Au fond.
Ouais. Avec aussi parfois cette idée qu'il vaut mieux en prendre plus parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, ce qui est une manière de conjurer aussi l'angoisse qui peut émerger quand on fait une recherche. Mais il y a encore un autre cas. Aujourd'hui, étant donné que le paysage documentaire nous permet d'avoir accès à des fonds numérisés, qui parfois d'ailleurs ne sont plus disponibles de façon matérielle, hein. Ça, c'est aussi ça une des conséquences. On peut tout à fait faire une thèse entière, une recherche entière en histoire, sans avoir jamais
depuis
mis les pieds dans un fonds d'archives. Oui.
Ouais. Alors l'expérience du confinement, l'année 2020, a dû jouer un rôle important dans cette évolution aussi, parce que tout le monde, de toute façon, n'avait pas le choix. Donc il fallait bien trouver des manières de travailler depuis chez soi. En lisant et en prenant connaissance, vraiment grâce à votre livre, de cette nouvelle pratique historienne, au fond, je l'ai rapproché spontanément de l'OSINT. On en parlait récemment avec Alain de Neuville dans cette émission, c'est-à-dire le fait de mener à distance des recherches. Alors l'OSINT, c'est différent, ça allie des compétences d'architectes, de vidéastes, de graphistes, de juristes, de sociologues, etc., qui cherchent par exemple à décortiquer une scène de guerre ou de violence policière. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils le font à distance, en accédant à des vidéos, à des documents de différents types, en essayant de recouper les informations à partir de différentes sources auxquelles ils accèdent toujours à distance. Et au fond, c'est un peu ça, quand on accède à un fonds documentaire et qu'on est historien, c'est pas très différent de cette situation-là.
Oui, dans une certaine mesure, ça ressemble. La difficulté, enfin en tout cas la nouveauté quand on fait de l'histoire, c'est qu'on doit faire ce qu'on appelle une critique de provenance, c'est-à-dire savoir d'où vient le document pour savoir ce qu'on peut en faire, quelle est sa trajectoire, parce que les contextes en histoire, les contextes documentaires, c'est quelque chose de fondamental.
Comment il s'est retrouvé dans
cette
boîte ?
Voilà, comment il s'est retrouvé là ? Or, quand on se retrouve, alors en 2020, mais ça existait déjà avant, hein, 2020 a été surtout un accélérateur d'accessibilité, c'est-à-dire des institutions qui parfois étaient très réticentes à l'idée d'ouvrir les fonds, en quelques semaines, les choses, voire quelques heures parfois, les choses se sont ouvertes de manière très rapide. Donc il y a eu un effet d'appel d'air. Mais de manière générale, la différence, c'est que quand on travaille sur un écran, le document qu'on lit, il est sorti d'un certain contexte initial qui nous permettait de le comprendre, donc entre autres celui que les archivistes avaient construit. Le carton, l'alias, l'instrument de recherche, etc. Quand on est devant son écran d'ordinateur, on est obligé de reconstituer ce contexte. Et voilà.
Je vais prendre un exemple légèrement différent, mais qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est un matériau qui m'est important, les journaux. En fait, quand on accède aux archives des journaux aujourd'hui, je veux dire des archives récentes de journaux, la plupart du temps, les chercheurs et les chercheuses désormais y accèdent principalement par des bases de données, qui désossent en fait les journaux et qui certes donnent accès aux articles des journaux, mais ne donnent pas accès à leur mise en page, ne donnent pas accès à la hiérarchie de l'information, ne donnent pas accès au contexte plus global de l'objet éditorial que constitue le journal. Et je dirais qu'on a perdu énormément du sens du matériau qu'on analyse. Déjà, on pouvait, enfin, les sociologues ont pour habitude d'être un peu réticents à l'égard d'études qui ne s'appuient que sur l'analyse du contenu des journaux et qui n'essayent pas de savoir comment ces contenus ont été produits. Ça, c'est une première chose. Mais aujourd'hui, c'est encore pire en quelque sorte parce que on n'a pas seulement le contenu une fois produit, on a le contenu une fois produit, mais transvasé en fait dans un autre contenant qui ne ressemble pas du tout à la façon dont il était agencé pour les lecteurs de l'époque. Et là, on est face à une véritable difficulté. Alors certes, il est possible d'accéder à des collections de journaux, mais c'est plus ou moins facile, en fait. C'est plus ou moins facile, et comme c'est facile, par ailleurs, d'accéder spontanément à des collections désossées, l'effort qui consiste à aller voir le vrai contexte de publication est moins souvent fait. Peut-être pas par les historiens, mais par d'autres spécialistes de sciences sociales qui, eux, ont besoin d'accéder aussi aux publications, aux archives de publication. Ça pose, à mon sens, un souci majeur.
Alors, il y a aussi, il y a deux sujets dans ce que vous dites, deux sujets majeurs. Il y a d'abord effectivement l'importance de la matérialité et du contexte d'une source quand on la travaille. Donc, savoir si l'information elle était à la page 6 ou si elle était à la 1, c'est quelque chose qui compte.
C'est très important.
Et il y a aussi la manière, dans le cas de la presse, dont on va accéder à l'information avec le développement de la recherche par mots-clés. Et le fait que désormais, comme la plupart de ces journaux sont dits haussérisés, c'est-à-dire qu'on peut faire une recherche plein texte dans les journaux, ben ça va avoir pour effet de sortir des mots d'un ensemble, si bien qu'on peut perdre conscience de l'unité documentaire à l'échelle d'un journal. Puisque si on lit que des tout petits passages sortis par mots-clés et qu'il y en a comme ça 70 000, ben en fait, on peut perdre conscience de la matérialité initiale.
Absolument. Alors, après, d'une certaine façon, c'est très intéressant de procéder ainsi. Il y a un livre magnifique de Catherine Ayers sur la question. Elle était venue en parler dans cette émission, une chercheuse américaine qui s'inscrit dans les humanités numériques. C'est une chimiste au départ, mais elle s'est mise à travailler là-dessus. Elle a publié ce livre dans la collection d'Yves Citon, la même que celle d'Alain de Neuville. D'ailleurs, il y a quelques années, elle montre comment on peut manier des corpus gigantesques, faire des lectures très rapides. Enfin, ça déconstruit l'idée que lire, c'est simplement lire dans l'ordre et de façon lente, etc.
Bon, ce qu'on appelle la lecture distante.
Voilà, on peut lire son livre est vraiment là-dessus. C'est très intéressant et en même temps, on peut pas évidemment se contenter de ce type d'approche parce que on passe à côté de d'autres phénomènes et donc faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, l'une des questions intéressantes, je trouve, dans votre démarche, l'un des points intéressants, c'est justement de dire attention, c'est humanités numériques qui proposent ces nouvelles pratiques, il y a un souci quand elles s'autonomisent trop, quand, au fond, on délègue aux humanités numériques ces façons de faire. Alors même que ces façons de faire, ce rapport au numérique, en fait, il ne concerne pas les spécialistes en humanités numériques, il concerne absolument tous les chercheurs et tous les chercheuses. Alors, dans votre cas, c'est plutôt les historiens que vous regardez faire, mais au fond, c'est à tout le monde de s'interroger sur ces pratiques. C'est pas en institutionnalisant un nouveau champ de recherche qu'on appelle humanité numérique qu'on va régler la question.
Oui, c'est ça. En fait, le livre est aussi une manière de réfléchir à ce qu'est le numérique dans nos pratiques de recherche quotidienne. Et la difficulté, c'est que au long de l'entrée à l'ère numérique, il y a ce champ des humanités numériques très important qui a permis des réflexions méthodologiques majeures, des développements de compétences. Enfin, il ne s'agit pas du tout de dire que les humanités numériques, on pourrait s'en passer. Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, on a eu tendance à considérer parfois dans la profession historienne que puisqu'il y avait les humanités numériques, eh bien, on pouvait déléguer pour partie nos réflexions sur ces sujets-là à ce champ, sans forcément prendre en compte le fait que le numérique, ce n'est pas seulement du très quantitatif, des grosses masses de données ou des compétences en ingénierie, ça peut aussi être ce que l'on fait quotidiennement, chacun avec nos ordinateurs.
Alors, ce qu'on fait chacun avec nos ordinateurs, on en a eu un exemple qui est tout simplement d'aller chercher des fonds d'archives à distance, comme on disait, mais il y a d'autres situations. Vous vous intéressez par exemple à ce que fait une historienne ou un historien face à une interface de moteur de recherche. Ça, c'est une situation banale que tout le monde connaît, qui est en train d'être défiée, voire remplacée par les IA, d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que certains LLM permettent d'obtenir beaucoup plus rapidement des références qu'on a l'habitude d'obtenir en passant par les grands moteurs de recherche classiques. Enfin, parce qu'il y a presque une situation de monopole de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer à propos de cette situation, la relation à l'interface du moteur de recherche ?
Le moteur de recherche, c'est devenu la porte d'entrée d'énormément de recherches. On s'en sert pour de multiples choses, hein, repérer la littérature de nos collègues, puisqu'on est dans une démarche de savoir cumulatif, repérer des sources, consulter des inventaires, etc. Or, quand on est dans un moteur de recherche, qu'on évolue dans cette interface-là, on fait ce qu'on appelle des requêtes. C'est peut-être le mot-clé que vous allez saisir dans la barre qui se présente à vous. Or, pour arriver à remonter des informations pertinentes d'un grand moteur de recherche, par exemple celui de Gallica, Bibliothèque nationale de France, vous avez besoin de savoir formuler votre requête. Sinon, vous allez avoir, on en a tous peut-être l'expérience, des résultats complètement aberrants ou qui n'ont rien à voir avec ce que vous cherchez. Et donc, ce que le livre défend, d'ailleurs Frédéric Laver l'avait déjà un peu formalisé il y a quelques années, c'est que la requête dans un moteur, c'est déjà un geste qui nécessite une expertise. C'est une nouvelle expertise historienne, parce qu'il faut connaître le vocabulaire de ces acteurs, ce qui va être en fait retrouvé comme texte dans les documents qu'on va faire remonter par l'algorithme, parce qu'il faut avoir une idée du périmètre de moissonnage, c'est-à-dire ce qui est présent derrière le moteur et ce qu'il va aller chercher. Et donc, pour toutes ces raisons, ce qu'on fait devant un moteur de recherche, c'est déjà exercer une expertise historienne. Ça a l'air de rien parce qu'on a l'impression que c'est général. Après tout, on a l'habitude d'utiliser le mot-clé dans toutes sortes de situations quotidiennes qui n'ont rien à voir avec la pratique de l'histoire. Or, il y a un effet de glissement de cette pratique-là du général au spécialisé qui nous fait un peu perdre de vue qu'on a besoin de compétences pour requêter correctement. Et en matière d'IA générative, on est exactement dans les mêmes questions. Pour avoir des résultats pertinents et produire des résultats pertinents, il y a un apprentissage du prompting. Il faut apprendre à faire les bons prompts.
Des prompts, c'est-à-dire à poser les bonnes questions.
C'est ça.
Mais il y a aussi des expériences qui sont différenciées. J'ai découvert il y a très peu de temps, par exemple, que deux IA génératives différentes ne proposaient pas, au fond, la même chose. Si vous demandez, on va être obligé de les nommer à ChatGPT, de vous donner des références sur un sujet, si vous lui demandez des références avec des sources précises, il va vous les donner. Vous allez avoir accès à des liens extérieurs qui vont vous permettre de vérifier si c'est pertinent ou pas, mais en tous les cas, il vous fait une liste plus ou moins bonne, mais il vous fait une liste avec des liens. Si vous posez la même question à l'IA de Google, Gemini, alors vous allez avoir du texte, et puis entre parenthèses, source numéro 2.1 ou numéro 3.2, et vous lui dites, mais je veux les sources, en fait, je veux pas, c'est quoi ces sources? Et il répond, en fait, c'est des agrégats de sources, je peux pas te donner vraiment les sources, en revanche, tu peux aller sur un moteur de recherche et avec les bons mots-clés, si tu veux, je te fais la liste des mots-clés pertinents par rapport à ta recherche. Et donc, en fait, on s'aperçoit que Google a gardé une forme de division du travail entre ce qu'il délègue à son IA générative et ce qu'il veut conserver à l'intérieur de son moteur de recherche classique. Il y a là, j'imagine, des choix de modèle économique, probablement, dans la concurrence entre ces intelligences artificielles génératives. Mais en tous les cas, les outils sont pas les mêmes pour le chercheur.
Oui, ce qui oblige, quand on réfléchit en termes de formation, pour rien vous cacher, hein, c'est une question qui agite beaucoup les historiens et les historiennes en ce moment, en particulier sur les enjeux pédagogiques, mais pas que, hein, puisque évidemment, ça pose aussi des questions de recherche. Une question, je pense, importante, c'est le mot que vous avez prononcé, c'est déléguer. Qu'est-ce qu'on peut déléguer de l'expertise à l'heure où les IA génératives sont capables de faire de plus en plus de choses. Est-ce que déléguer, ça veut dire perdre en expertise ou en gagner une autre? Donc l'exemple que vous citiez sur trouver des sources, alors, est-ce qu'on parle de sources, par exemple, d'archives? Bon, là, c'est parfois un peu plus difficile parce que, ben, par exemple, les archives départementales, les corpus numérisés, etc., ils sont pas forcément présents dans les corpus d'entraînement des grands modèles de langue. Mais par contre, par exemple, pour faire un état de l'art, repérer ce qui existe dans les grandes bases de données scientifiques, bien, ça peut faciliter le travail considérablement. Maintenant, si on fait ça, ça veut dire qu'on perd aussi l'expertise de savoir où sont ces bases de données, leur périmètre, etc. Donc je pense que c'est des calculs coût-bénéfice qu'il faut avoir en se demandant quel est notre cœur de métier, ce qu'on sait faire et comment plier l'outil à nos besoins.
Je vais prolonger, et ça concerne bien au-delà de la pratique des historiens et des historiennes, celle des chercheurs en SHS de manière plus générale. En fait, quand on demande à accéder à des sources, par exemple de la littérature, simplement d'autres chercheurs et chercheuses, on s'aperçoit que ces IA génératifs sont capables d'entrer dans la science ouverte disponible, dans HAL par exemple, dans des lieux où les gens déposent leurs travaux. En revanche, tout ce qui est publié dans des revues académiques et qui est mis derrière des paywalls de plateformes, je pense à Cairn en particulier, ce qui constitue l'essentiel des revues qui sont, dont le contenu est vérifié par les pairs et validé par la communauté académique, n'est pas trouvable. Et donc, en fait, on se trouve dans une espèce de dilemme où les brouillons de science, où les mémoires de master sont plus facilement accessibles que les articles des annales, pour le dire de manière un peu provocante. Caroline Muller.
Alors ça dépend un petit peu des politiques de la recherche. Alors effectivement, il y a un chapitre 1 dans le livre sur ces questions de politique de la recherche et ce qu'elles font au paysage documentaire. Sur HAL, donc HAL, hein, le dépôt où on dépose nos articles, l'archive ouverte, voilà. En fait, il n'y a pas que des brouillons. Faut faire un peu attention là, parce que voilà, si vous dites ça,
par exemple, il y a une vraie différence entre le document que constitue une thèse de recherche et puis, je dirais, les articles auxquels cette thèse a pu donner lieu, voire les ouvrages qui sont tirés de cette même recherche, mais qui sont mis en forme différemment, sur lesquels un certain nombre de gens sont intervenus, des éditeurs dont le travail a été précieux pour le mettre en forme, pour lui donner un autre. Voilà, votre livre tel qu'il paraît chez Armand Collin, il n'est pas disponible sur HAL, et fort heureusement pour vous, comme pour l'éditeur, comme pour l'écosystème général éditorial, en fait.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans HAL, il n'y a pas que de la littérature intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des produits finis. Moi, voilà, je dépose mes versions auteurs de mes articles qui ont été expertisés, etc. Donc, c'était juste une manière de dire qu'il ne faut pas trop redire l'opposition non plus. Mais ça pose en fait la question générale de savoir avec quel corpus ces grands modèles sont entraînés. Alors moi, je suis pas directement spécialiste de ces sujets-là. Hein. Ça, c'est plutôt Frédéric Lavert qui est spécialiste de ces questions d'histoire et IA. Mais il est certain que ça pose la question aussi de la visibilité et de l'invisibilité de certaines publications et de certains corpus de sources. Si le grand modèle de langage a été entraîné à partir de certains corpus, bah, si on commence à faire des recherches, à essayer d'explorer un paysage documentaire à partir du LLM, eh bien, il va nous fournir ce avec quoi il a été entraîné. Ce qui laisse de fait de côté tout ce qui est dans l'ombre du LLM, donc cette littérature dont vous parliez, par exemple, protégée par paywall.
Alors, il y a une chose dont on a finalement peu parlé depuis le début, qui donne son titre au livre, Écrire l'histoire, c'est la dimension d'écriture à proprement parler. Parce que là, on était dans les archives, dans rechercher la littérature autour du sujet, ou après, comment soi-même déposer ces textes. Mais comment cette mutation numérique, à vos yeux, comment vous avez pu observer la façon dont elle a transformé les pratiques d'écriture, au sens le plus strict du terme cette fois?
C'est une histoire déjà longue, hein, si on songe que ça fait quand même pas mal d'années maintenant hein, que on a des micro-ordinateurs. Hein, donc ça a été d'abord l'entrée, par exemple, dans l'ère du traitement de texte. Alors ça a l'air de rien, l'ère du traitement de texte, mais en fait, le fait de pouvoir écrire et effacer à l'infini sans que ça laisse de traces particulières.
Je me rappelle d'un livre passionnant à l'époque qui était titré quelque chose, c'est un livre américain, mais qui était titré quelque chose comme « Un traitement de texte n'est pas une machine à écrire ».
Eh ben non, parce qu'il n'y a pas les traces des écritures intermédiaires. Donc ça, c'est la première chose, mais ça, c'est pas complètement le cœur du livre. Une des questions qu'on pose dans le livre, c'est de savoir ce qui se passe quand on commence à avoir des écritures qui vont être lues en contexte numérique. Donc par exemple, le rapprochement des sources de l'histoire avec le texte. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y avait une sorte de pacte de lecture avec celui qui lisait un livre d'histoire. C'était de dire, voilà, si vous voulez retourner à la source qui a analysé, alors, je sais pas, un rapport préfectoral, un journal intime, eh bien voilà la cote, vous pouvez y aller, mais globalement c'était quand même assez loin. Et ce pacte-là, voilà, il ne pouvait pas toujours donner lieu à des vérifications, des interactions, etc. Aujourd'hui, si un corpus d'archives est numérisé en ligne, eh bien, de clic, on peut se retrouver dans le corpus analysé. Vous voyez Arlette Farge qui travaillait sur les archives de la Bastille, les lettres des prisonniers. Aujourd'hui, elles sont en ligne sur Gallica. Donc, on peut lire le texte et explorer l'archive en même temps. Et ça, c'est assez fabuleux et très riche, parce que ça permet des rebonds complètement inattendus. C'est le jeu de l'hypertexte, en fait.
Il y a une autre dimension qu'on n'a pas abordée, qui est la question des archives qui sont immédiatement numérique. C'est-à-dire que on vit dans une société maintenant, vous le rappeliez, qui numérise depuis déjà très longtemps. Et la question qui se pose, c'est que on a pu se dire il y a un retour de l'écrit, par exemple, parce que moi je pense qu'il y a une période qui va être très compliquée pour les historiens, qui est la période pendant laquelle on travaillait au téléphone. Si je pense aux historiens de la presse et je pense à mon expérience professionnelle des années 1980-90 jusqu'au début des années 2000, l'essentiel du travail se faisait par téléphone. Il n'en reste aucune trace. Quand il y avait des fax, ils sont aujourd'hui effacés. Donc en fait, il n'y a quelqu'un qui veut faire l'histoire d'un journal comme Les Inoccupables dans lequel j'ai travaillé a beaucoup de mal à trouver une archive écrite. Aujourd'hui, enfin, la période qui est couverte par les mails, peut-être qu'un jour, et ça c'est l'enjeu, il sera possible d'accéder aux correspondances, aux mails, si tant est qu'ils aient été conservés, qu'on ait des émulateurs et des techniques qui permettent de réaccéder aux logiciels qu'on utilisait, etc. Bon, les mêmes problèmes se posent avec les conservations d'œuvres d'art numériques dans les musées, mais en fait, aujourd'hui, à la fois, on écrit beaucoup plus qu'à d'autres époques, mais qu'est-ce qui va rester de ces écrits et comment les historiens et les historiennes vont pouvoir y accéder et continuer à faire leur travail dans l'avenir ?
Oui, c'est une question fondamentale et de se demander comment on va faire l'histoire plus tard et avec quelle documentation. Alors, vous preniez l'exemple des mails. C'est très intéressant parce que pendant les 10 premières années où les administrations publiques sont passées aux mails, eh bien, en fait, on imprimait les mails quand on le pouvait pour pouvoir en faire une trace papier.
Faire des dossiers.
Mais voilà. Oui, parce que voilà, ça pose aussi des problèmes techniques du côté des archivistes. Comment on archive des flux de données? C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc voilà. Alors, moi, par exemple, qui ai fait toute une thèse sur les correspondances et des journaux personnels, eh bien, j'ai coutume de dire parfois qu'aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué parce que, par définition, la correspondance papier, elle traverse le temps, même dans une malle, dans un grenier. Aujourd'hui, les mails, mais aussi les SMS et tout ce qui passe par nos téléphones...
Les mails, c'est pas le plus compliqué.
Voilà.
En fait, mais...
Soit on a une véritable conscience et une politique de conservation, soit, en fait, à cause de l'obsolescence successive des appareils, en fait, il n'y a pas de transmission. Donc, en fait, il va y avoir un peu deux choses à faire, mais ça, les archivistes sont déjà bien sur le pont et depuis plusieurs années. D'abord, comprendre comment comment on s'occupe de ces documents nativement numériques, qui n'ont jamais eu d'autre existence que numérique. Et puis, nous, comment on fait pour adapter nos méthodes critiques, nos diplomatiques, à des documents qui ne sont pas papier. Donc, par exemple, tout simplement vérifier l'authenticité d'un document électronique, faut apprendre à lire un horodatage électronique. Mais ça, on ne nous l'a pas encore appris. Donc ça va nous demander aussi tout un travail, sans doute, d'actualisation de nos méthodes critiques.
et de formation,
et de formation.
Des étudiants et oui. Aujourd'hui à ces questions-là. Mais au fond, je me suis demandé, peut-être ce serait enfin l'opportunité d'articuler mieux, me semble-t-il, mais ça c'est sans doute plus le sociologue qui parle et qui adresse cette remarque aux historiens, d'articuler mieux l'histoire orale et les archives. Parce qu'on peut avoir l'impression, vu de l'extérieur, que les historiens, en fait, ils choisissent. Il y en a très peu qui font de l'histoire orale, mais quand ils font de l'histoire orale, ils font de l'histoire orale. Et finalement, ils confrontent assez peu les archives à ce qu'ils recueillent en faisant le même type de travail qu'un sociologue qui mène un entretien avec des personnes qui sont encore vivantes. Et donc sur ces périodes dont on parle, qui concernent des archives numériques dont on ne sait pas très bien comment on va y avoir accès, il me semble qu'il y a des enjeux très importants dans l'articulation entre les entretiens qu'on peut mener avec des témoins et puis ce type de processus d'archivage. Est-ce que c'est déjà en cours ? J'imagine qu'il y a des gens qui travaillent dans cette perspective.
Les archivistes en particulier ont développé plusieurs projets qui associent comme ça des entretiens avec des corpus. Par exemple, quand il a fallu réfléchir à l'archivage des années de pandémie, une difficulté particulière, c'est de comprendre qui a documenté quoi, qui a archivé quoi. Et donc, au moment où les archivistes ont voulu conserver des corpus liés à la pandémie, donc par exemple l'activité en ligne, l'effervescence qu'il y a eu en ligne au moment du confinement, ils ont aussi documenté cela en faisant des entretiens pour essayer de comprendre d'où venaient les corpus. Après, le métier de l'histoire, c'est un métier de croisement de sources. Donc, à n'en pas douter qu'on y arrivera toujours, et sans doute, c'est vrai, sur ces périodes où on a moins de traces papier, on y arrivera encore en interrogeant les gens, mais c'est pas le même type de démarche. Tout de même.
Caroline Muller, comment vous voyez, vous observez l'attitude ou les attitudes, parce qu'elles sont forcément très différentes et clivées, de vos collègues historiennes et historiennes par rapport à cette mutation numérique ? Ce qui vous intéresse, vous, ce que vous avez déclenché avec ce premier tweet, est-ce que ça concerne une toute petite minorité de vos collègues qui se posent ces questions ou est-ce que vous voyez cette proportion se développer assez considérablement ces derniers temps ?
La chose intéressante quand on fait de l'histoire, c'est que, on le disait tout à l'heure, on rentre par l'historiographie et par un certain nombre de représentations de ce qu'on fait. Or, on se représente beaucoup l'histoire comme un métier de l'écrit, de l'imprimé, du manuscrit, un métier des bibliothèques, etc. Donc, c'est difficile pour une profession qui vient de là de regarder ce qu'elle fait à l'ère numérique et de se dire que en fait on est tous et toutes au quotidien derrière des ordinateurs à manipuler des données. Donc le livre il vise aussi à ça, à dire bon, même si vous n'êtes pas sensible aux questions numériques, même si vous manipulez pas des millions de données, etc. Eh bien on est tous dans un environnement qui est numérique, donc ça concerne tout le monde. Maintenant il y a des sensibilités. Il y a des générations, il y a des objets qui vont vous emmener plus ou moins loin dans les compétences nécessaires. Si vous travaillez sur les archives du web parce que vous en avez besoin pour documenter un événement de début 2000, bah évidemment que ça va pas vous donner les mêmes compétences et les mêmes nécessités archivistiques que si vous êtes sur d'autres objets. Maintenant, ce que l'enquête qui a mené au livre a un peu montré, c'est que au-delà de ces questions d'objets, de démarches, etc., bah finalement, il n'y a pas juste l'histoire contemporaine qui s'intéresse au numérique et puis les autres. Donc, par exemple, les médiévistes, ceux qui sont spécialistes du Moyen-Âge, ont une expertise déjà très ancienne sur ces sujets-là. Donc, le livre, il est là aussi pour dire qu'en fait, on a tous quelque chose à raconter de cette histoire-là et que c'est pas une question d'être nul ou pas nul en numérique, qu'en fait, dès lors que vous manipulez un ordinateur, vous faites de l'histoire à l'ère numérique.
Et donc, il vaut mieux se poser la question de savoir comment on s'en sert. C'est à ça que permet de répondre en grande partie ce livre passionnant. Écrire l'histoire, gestes et expériences à l'ère numérique. Caroline Muller, vous restez avec nous. On continue de parler d'archives, dans la relation cette fois plutôt à la littérature, avec Adrien Genoudet qui nous rejoint en deuxième partie. C'est après un extrait du nouvel album de Alani, Seaweed.
Something drifting, touching me in a whisper. stories in deep blue. Seaweed and the night. Stranger's paradise. Take me with your tide. I could have stayed all night listening to your moonlit lullabies. How do I remain the same when I know the ocean holds your name? Dancing our own underwater ballet. Gracefully you bend my soul, swaying in the flow. Trusting in your arms we float together. The stillness is so satisfying. Can I be here forever? Every ripple, every sigh, dancing with the moonlight, the seaweed on the shore.
On poursuit à propos d'archives à la suite dans les idées. L'idée de cette émission, c'était aussi de l'inscrire dans ce moment de fête de fin d'année durant lesquels France Culture vous fait entendre des archives et des voix, celles de Robert Badinter, de Marguerite Duras, de Françoise Héritier, de Borges, de Jane Goodall, d'Albert Camus, de Louis Aragon. Beaucoup de grands entretiens historiques et d'archives que France Culture a choisi de mettre à l'honneur pour fêter la fin de l'année. Et donc, on va continuer à parler d'archives avec vous, Adrien Genoudet. Vous êtes écrivain. Vous avez publié en cette rentrée littéraire Nancy Saïgon, un roman dont on va parler parce qu'il a un lien très fort à l'archive également. Et puis on va parler de cette collection Fléchette dont vous avez eu l'idée, que vous dirigez depuis 2022, une collection publiée par Sun et qui s'appuie sur un fonds d'archives que je vais vous laisser nous présenter.
Oui, bonjour. Le fonds Albert Kahn, qui était sur lequel j'avais fait ma thèse à l'époque, qui justement l'a rejoint, ce que quelque part c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait avec Caroline Muller, c'est que on est face à un fonds d'archives de 72 000 autochromes qui ont été prises entre 1908, 1912, disons, et 1931.
Qui sont pas numérisés.
Qui sont numérisés.
Qui sont numérisés tous.
Voilà. Et justement, d'ailleurs, aujourd'hui, ça qui est beau, c'est qu'on peut les consulter directement sur Internet, les 72 000 autochromes qui sont ce procédé de photographie couleur, en couleur directe, donc commercialisé par les Frères Lumière en 1904, et puis 120 heures de films voilà, qui ont été prises au même moment, qui constituent les archives de la planète.
C'est quoi la période, les bornes chronologiques ?
1908-1931, voilà. Et donc c'est vraiment ce moment où ce philanthrope banquier Albert Kahn décide, disons, de dilapider sa fortune pour photographier, archiver le monde, voilà.
Et donc vous avez travaillé comme chercheur d'abord pour faire une thèse sur ce fonds ?
Oui, j'ai essayé en tout cas de reconstituer et l'histoire d'Albert Kahn, qui est assez éteinte, il y a plein de choses dont on ne sait plus, qu'on ne connaît pas, et puis en effet, cette entreprise folle d'archiver le monde sur une vingtaine, trentaine d'années, et surtout de l'enfermer, c'est-à-dire que c'était ça l'idée, hein, c'était des archives qu'on dit volontaires, c'était prendre les images, les enfermer chez lui à Boulogne, là où aujourd'hui est le musée Albert Kahn, et puis les offrir quelque part, ou les laisser, ou les rendre disponibles
à la postérité, plus tard. Voilà. Et donc là, vous avez ouvert le carton, les cartons, ou je sais pas comment...
Les boîtes, ce sont des boîtes en bois, oui, en chêne. Voilà, oui.
Et vous est venue l'idée de proposer à des écrivaines et des écrivains de choisir une image qui serait le point de départ d'un texte littéraire.
Voilà, l'idée, en fait, après, face à ce fond Albert Kahn, il y avait quand même l'idée de justement de le sortir un peu des boîtes, de lui donner peut-être une autre dimension, de voir autrement aujourd'hui ces images, en fait, parce qu'évidemment qu'elles donnent à voir un monde qui a quelque part disparu, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui à en dire, et de ces images, et de la manière aussi dont elles ont été faites et prises. Et donc, l'idée a été de faire cela, d'inviter des autrices et auteurs, 4 par an, pour choisir une seule image parmi les 72 000 autochromes, donc aller les regarder et sur place et en ligne, et de choisir une image et d'écrire un texte libre, donc de poésie, un essai, une fiction, enfin voilà.
Avec une dimension littéraire, mais quel que soit le genre ou le registre. Oui. Et aujourd'hui, il y a combien de titres
aujourd'hui, on vient d'en sortir donc trois nouveaux livres cet automne. On en sort à l'automne et donc on est à 15 ouvrages cette année.
Depuis le début. Alors vous avez commencé, j'allais dire, presque en trichant, en demandant à Philippe Artière, parce que c'est à la fois un écrivain, mais c'est aussi un historien. Et après, vous êtes allé vers des gens qui ne sont pas du tout historiens, en fait.
Alors, on appelle ça des salves avec l'éditrice Céline Pévrier. Donc on en fait quatre livres par an en même temps. Donc Philippe Artière n'était pas tout seul. Il était accompagné de trois autrices, Fanny Taillandier, Hélène Gaudy et Marie-Hélène Lafont. Et donc l'idée, c'était de lui donner, j'aime beaucoup c'est l'approche de Philippe Artière, qui est aussi l'approche littéraire, mais aussi cette façon de travailler, de malaxer l'archive comme ça, de toutes les façons.
Donc, une filiation avec Arlette Farge assez évidente.
Absolument. Donc voilà, en effet, l'idée était de lui laisser la part, disons, historienne de ce premier geste.
Elle n'est pas tout seul, parce que Patrick Boucheron, producteur de France Culture aussi, l'a suivi. Mais c'est les deux seuls historiens, en fait, de cette série, dans laquelle on trouve Marie Cosnet, Fanny Taillandier, Marceline Delbecq, Marie-Hélène Lafont, Hélène Gaudy, Maëlys de Kerangal, vous-même, Amélie Lucas-Garry, je ne veux pas en oublier, Christophe Manon, Laura Vasquez, voilà.
Et cette année, donc, je me permets...
Muriel Pic,
cette année, avec Emiliane Malfatto et Thomas Claire.
Voilà, ça, c'est les trois derniers.
Oui.
Vous, comment, comme auteur, vous avez procédé pour « Enfant vu de dos », qui est le titre de votre livre dans cette collection Fléchette ?
L'idée était... Moi, j'avais été très marqué, en fait, par une image, justement, dans le fond, pendant mes recherches, parce que je travaillais, d'ailleurs, en même temps, à la fin, quand j'ai commencé ce livre, sur le roman Nancy Saigon. Donc, c'était je me suis confronté beaucoup aux archives de l'Indochine française. Et... j'avais souvenir de cette image pendant mes recherches, de cet enfant photographié de dos, un enfant à Hanoï, qui est à peu près daté vers 1915.
Sur un mur bleuâtre.
Voilà,
oui.
Sur un mur bleu qui, justement, est presque l'objet aussi de l'image, parce que comme tout autochrome, l'idée est de faire sortir la couleur, de la montrer. Et donc, il y avait quelque chose qui était problématique dans cette image, parce qu'elle répondait autant au désir d'Albert Kahn d'archiver le monde en couleur, donc de le rendre quand même quelque part beau, ce monde. Et en même temps, évidemment, d'être face là à une photographie médicale et coloniale, donc violente d'une certaine façon. En tout cas, il y avait cette violence qui ressortait directement de cette image. Et donc, presque pas en contre-expertise, mais en tout cas en voulant un peu aller à l'encontre de mon premier geste d'historien du fond Albert Kahn, c'était un peu de me confronter à la part plus compliquée, plus complexe, disons presque à la part laide du fond, alors qu'au premier regard, ça semble beau.
On va venir à votre « Nancy Saigon », ce roman que vous avez publié à la rentrée. Mais Caroline Muller, comment vous recevez une initiative comme celle-là ?
Bon, moi, je trouve que c'est un projet magnifique. Un projet magnifique et très contemporain dans sa manière de manipuler l'archive, puisque il y a de multiples initiatives autour de l'archive en ce moment, des archives familiales, par exemple, mais pas que, qui visent à réinscrire aussi les archives dans d'autres types de projets que ceux des historiens, avec même parfois des historiens qui travaillent aussi la forme littéraire, etc. Là, dans le cas précis, ce que je trouve très beau, c'est effectivement la rematérialisation d'un corpus.
Parce qu'il y a un tirage.
Dans le sens, bah oui.
Voilà, l'objet livre est magnifique. Il s'ouvre par un tirage de la photo dont il est question, en fait, qui est inséré comme autrefois dans un album photo avec des encoches, en fait.
Absolument.
C'est ça. Et ce geste-là, je le trouve superbe.
Et c'était un enjeu, en plus, éditorial, mais aussi, je crois, quand même, historien. Enfin, je crois que moi, c'était ce qu'on voulait avec Cine Pévrier, l'éditrice. C'était que, en plus de ça, c'est la taille 1-1 de l'autochrome. C'est-à-dire que quand on détache l'image du livre, on a en main
le format
réel de la plaque de verre autochrome. Et on lui a aussi rendu, par un travail d'impression spécifique, une forme de transparence. C'est-à-dire que si on porte l'image face à une lumière, eh bien, il y a un effet de transparence qu'on retrouve avec l'autochrome.
Sur cette photo, enfant vu de dos, on trouve cette inscription Tonkin A 10345, et c'est au Tonkin aussi que vous avez situé ce roman Nancy Saigon,
oui.
En partie, oui.
Ça, c'est, on va dire, c'est l'autre pan. Enfin, en tout cas, les deux livres se sont écrits à peu près au même moment, mais en effet, Nancy Saigon était une manière de. Alors là, pour le coup, d'ailleurs, de remettre en scène un vrai moment d'ouverture de carton réel, parce que l'histoire, c'est que j'ai.
Pendant le confinement, en plus.
Voilà, tout à fait, que j'ai épluché, le narrateur. Voilà, épluche 5000 lettres, en tout cas on ne sait pas le nombre, mais moi je le sais, 5000 lettres de mes grands-parents qui se sont échangées entre Nancy et Saigon au tout début de la guerre d'Indochine en 1949. Et donc en effet, c'est aller rechercher véritablement une part là aussi sombre du personnage qui est à Saigon.
Ouverture de carton et ouverture de cercueil aussi.
Absolument. Le début du livre commence par cette idée de l'histoire qui refait surface, à proprement parler, presque, à proprement parler. Et j'avais envie d'écrire une scène de ce type-là où, en ouvrant le cercueil, on redécouvre un habit, cet aïeul, donc ma grand-mère, porte un habit d'Indochine, un aodai bleu. Et que au moment où on ouvre ce cercueil, on retrouve autant le passé de cette femme que le mystère du vêtement qu'elle porte, quoi.
On reste dans le bleu, mais on reste dans les archives. Comment on fait ? Tout à l'heure, on a essayé de voir comment on écrivait l'histoire avec les archives. Comment on écrit la littérature ? Comment vous avez écrit, pour peut-être ne pas trop généraliser la question, avec les archives ?
C'est en effet une bonne question, c'est une question en cours. C'est-à-dire que c'est très difficile toujours d'y répondre, parce que d'ailleurs, enfant vu de dos, et il y a une manière de la confronter aussi de façon littéraire, mais quand même en connaissance de cause, en connaissance du fond, en connaissance de l'histoire, en connaissance de l'histoire de la photo aussi. Dans Nancy Saigon, je pense que c'est, personnellement, je ressens ce fond d'archives que j'ai véritablement consulté. L'enquête littéraire, c'est aussi une manière de la délirer, l'archive, de passer à côté, pas de passer outre, mais de passer un petit peu sur le côté pour la réfléchir autrement, l'écrire autrement. Aussi comprendre autrement mes héritages. En tout cas, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'essaye de dire, mais j'arrive pas encore tout à fait à y aller frontalement.
Caroline Muller.
Je suis assez frappée depuis la rentrée littéraire, mais aussi depuis plusieurs années, de la manière dont l'archive devient un lieu d'élaboration littéraire. Je pense à Laurent Mauvignier, mais il y a eu plusieurs livres comme ça. Et je crois que ce qui est fabuleux dans ces gestes-là, c'est que ça peut nous faire entendre et comprendre autrement de l'histoire. Si tant est évidemment qu'on fait un peu attention à la question de la vérité historique, etc. Mais je pense que quand on est chercheur en histoire, ça doit être un sujet. Et c'est vrai que il y a un sujet en ce moment, je crois, de l'archive familiale en particulier, trouvée dans les maisons, dans les tiroirs, qui revient au centre de textes très puissants.
Et la question de la vérité historique que,
oui,
que
ça m'intéresse.
Je suis sur le fil depuis un moment. En plus, j'ai une formation d'historien assez longue à la base, et je pense que moi, justement, à force, ce qui m'a fait aller plus vers l'écriture véritablement, c'est que je pense que la vérité historique m'a toujours en partie gêné. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'elle. Je me sentais toujours beaucoup trop funambule sur la vérité historique. J'ai toujours l'impression qu'elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Donc j'aime aller l'écrire dans ce sens-là, quelque part.
Merci beaucoup, Adrien Genoudet. Donc, Nancy Saigon, c'est ce roman qui est apparu à la rentrée aux éditions du Seuil, et puis la collection Fléchette que vous dirigez, publiée par Sun Sun, qui comprend désormais 15 titres, et que je vous invite également à découvrir. On trouve sur la page de l'émission toutes ces références bibliographiques, ainsi que celle du livre de Caroline Muller avec Frédéric Claver, Écrire l'histoire, qui paraît chez Armand Collin.
France Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité aujourd'hui qui s'intéresse à une revue, une nouvelle revue, Salaria, revue de sciences sociales. Avec vous, Nicolas Castel, bonjour, vous êtes sociologue. Bonjour. À l'université de Nancy, c'est ça ?
L'université de Lorraine, mais oui,
Lorraine.
C'est à Nancy,
mais elle s'appelle l'université de Lorraine. Donc cette revue, vous en êtes l'un des animateurs. Vous avez co-dirigé, je crois, ou écrit dans le dernier numéro consacré, on va y venir dans un instant, à la sécurité sociale, dont on a fêté dans une certaine discrétion les 80 ans au mois d'octobre. On a beaucoup entendu parler des 120 ans de la loi de 1905, sans doute à juste titre, mais on a assez peu parler des 80 ans de l'ordonnance qui a institué la sécurité sociale en 1945 en France. Ça, c'est l'objet du nouveau numéro, mais peut-être pour commencer, quelques mots sur cette revue Salaria.
On est parti de l'idée. Alors c'est un projet collectif d'abord. Autour de 2008, sous l'impulsion de Bernard Friot, qui est socio-économiste, on a créé un institut qui s'appelle l'Institut européen du salariat. C'est un collectif de chercheurs et de chercheuses. Et puis on avait l'ambition de publier des articles assez accessibles de 4 pages, des courts articles. Et on a fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis depuis 2022, on s'est dit on va essayer de monter une revue avec le secret espoir de terminer dans les archives, puisque c'est la thématique de votre émission. Une revue interdisciplinaire biannuelle. On se donne le temps c'est de la slow science. On se donne le temps d'écrire
en ligne,
des articles.
Une revue en ligne et une revue papier, les deux.
Tout à fait. C'est une revue en ligne. Où on essaye d'être réactif un peu comme on peut à l'actualité. Et puis, en papier, on voulait effectivement un matériau assez joli, avec des images, construire des numéros sur la base d'une problématique, d'une thématique pensée, encore une fois, sur du temps relativement long. On publie un numéro tous les 2 ans, en gros, quoi.
Par salaria, vous entendez un rapport social, une classe sociale, mais aussi un ensemble institutionnel. C'est donc une définition assez large du salariat. Oui. Et vous en tirez aussi des conséquences, je dirais, sur la manière de positionner votre revue, parce qu'il y a cette phrase qui clôt votre introduction générale, qui est « La revue ne se conçoit pas comme un espace d'évaluation des chercheurs et des chercheuses sur le marché du travail académique ».
Oui, vous réagissez au premier numéro de la revue. Oui, encore une fois, on voulait pas participer à cette bibliométrie, à ce publish or perish qui
caractérise la nouvelle condition salariale des chercheuses et des chercheurs, en fait.
Oui, d'une certaine manière. Et on voulait pas participer à ça. Donc, encore une fois, c'est pour ça que on a des numéros qui sont très ouverts, qui se construisent dans le temps long. Et puis aussi, on essaye dans la mesure du possible, de soutenir les jeunes chercheurs. Et puis de pas être cantonné aussi à une discipline, c'est-à-dire ouvrir les colonnes à la sociologie, à l'économie, au droit, à l'histoire. Voilà, hein, alors, on est une ZAD, si vous voulez, une zone d'autonomie
alors,
disciplinaire.
Cette ZAD consacre son numéro 3, donc c'est encore vraiment une jeune revue, à la sécurité sociale, comme je le disais. Et vous avez signé l'introduction à ce numéro avec Claude Hydry, Mathieu Grégoire et Émilien Julliard. En prenant prétexte, j'imagine, de ce 80e anniversaire fêté discrètement.
Tout à fait. On voulait fêter les 80 ans de cette invention géniale, hein, qu'on doit à Ambroise Croizat, Pierre Larocque, et puis au départ, il y a une contribution d'Alexandre Parodi. On voulait fêter de manière un peu offensive cet anniversaire et poser la Sécu, la sécurité sociale, comme un fait social, bien sûr, et comme un modèle. C'était ça l'ambition de départ.
Et comme un modèle inachevé, parce qu'au fond, cette ordonnance de 45, elle pose les bases pratiques d'une idée nouvelle réalisée en politique publique, mais elle laisse ouverte beaucoup de choses et des sécurités sociales qui auraient d'autres objets. C'est un peu ça que vous explorez dans le numéro aussi.
Alors, oui, vous avez raison. Inachevé, en termes de continuité du revenu, c'est quand même extrêmement puissant. Hein. Vous avez une relative autonomie, c'est-à-dire que vous soyez en emploi ou non, vous avez une garantie de ressources qui est quand même très développée en France. Et puis, vous avez tout un système de solidarité que vous connaissez, maladie, vieillesse, perte d'emploi, famille.
Oui, mais il n'y a pas le logement, par exemple.
Mais il n'y a pas le logement. Et puis, vous savez que le chômage est annexe, hein, même si on peut l'ajouter. Donc oui, c'est inachevé parce que tout n'est pas couvert, première chose. Et puis c'est inachevé aussi parce que on a voulu insister sur la Sécu comme espace de production largement sous-estimé.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je crois qu'on en dise un mot. Oui. La Sécu, d'abord, d'un point de vue pratique, c'est quand même c'est 150 000 salariés. Hein. La Sécu, ça touche directement, enfin très directement, quasi 2 millions de producteurs de soins. Et puis, vous avez, alors on ne le prend pas en compte, mais vous avez 17 millions de retraités. Là aussi, il y a une production qui est très libre, bien sûr, de services, de biens de subsistance. Donc on a un modèle productif qui est largement sous-estimé. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on a voulu insister en partie dans ce numéro qui est très large.
Mais vous l'ouvrez aussi, par exemple, il y a un article sur l'alimentation à propos d'une expérimentation locale de sécurité sociale de l'alimentation. C'est des choses dont on entend parler de plus en plus souvent.
Oui. Alors ça, c'est l'ouverture sur des possibles. Et là, effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation, il y a un bouillonnement autour de ces questions aujourd'hui, donc c'est très motivant. Et nos collègues de Bordeaux ont participé à une expérimentation et ils nous rendent compte de cette expérimentation où on voit qu'il y a une vraie réflexion autour d'une alimentation saine, autour d'une alimentation peu agressive au niveau environnemental. Et puis c'est une réflexion qui est tout à fait passionnante parce que vous avez là encore un tissu productif qui existe, mais il n'y a pas de SSA bien sûr, mais le tissu productif, il existe, c'est plus d'un millier d'AMAP, c'est 360 magasins de producteurs, c'est des plateformes qui facilitent la vente en circuit court. Et là, imaginez une sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait de fédérer tout ça et qui, avec une vraie réflexion sur le manger bon et bien, c'est fondamental. Parce que ça, on le sait, que ça nous, on a l'idée, hein, on sait très bien que la malbouffe, ça a un coût énorme sur la santé et puis pour
alors,
la société en général.
Alimentation, mais aussi sécurité sociale industrielle, ça c'est un article très intéressant de Claude Hydry aussi, sur la mise en sécurité sociale des aides publiques aux entreprises, s'agissant d'une tentative de réindustrialisation du pays. Puis vous-même, vous avez consacré deux articles, deux volets d'un même article, allumer la flamme puis la réduire, à propos du statut des électriciens gaziers. Voilà, ça c'est le sommaire rapidement énuméré de ce numéro 3 de la revue Salariat qu'on peut facilement trouver en ligne et les références sur la page de l'émission où vous pouvez également écouter le podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marseille, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon, à la réalisation Louise André.